Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont les parties manquent, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, on le dit à ça.
Et oui, c'est parti. Nous parlons du développement de l'esprit d'innovation sur le plan professionnel, la créativité. Vous savez, dans la vie professionnelle, certains employés perdent parfois leur poste au motif qu'ils n'ont pas l'esprit de créativité. Cela s'observe surtout dans les secteurs où l'innovation est mise. Hein. Il faut plus d'innovation pour faire face à la concurrence. Que faire pour être créatif, productif au travail? Joseph Mbenza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et expert en formation à l'esprit d'entreprise. Nous parlons aujourd'hui de la créativité, l'esprit d'innovation. C'est quoi, au fait?
On peut définir l'esprit d'innovation simplement comme étant la capacité à l'individu de voir, de saisir et d'agir sur de nouvelles opportunités.
Voilà, et capacité de voir et de saisir.
Et de voir et surtout d'agir sur de nouvelles opportunités.
Oui, comment par exemple?
Ces opportunités, par exemple, peuvent être les affaires, de nouvelles opportunités d'affaires, de nouvelles opportunités de financement, de nouvelles opportunités d'équipement, de nouvelles opportunités d'agir sur les parts de marché, d'agir sur les clients, etc.
Alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont cette capacité de voir et d'autres n'en ont pas?
Cela, si vous voulez, les petites innovations, c'est une compétence qui compose ce qu'on appelle le besoin de réussite. C'est une motivation sociale. Mmh. Alors, cette motivation-là a des sources précises, et la plus grande source, c'est la culture dans laquelle l'individu a évolué.
Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont bornés sur la manière de faire quelque chose depuis des longues années, il y a 10 ans, 20 ans, et ils font toujours de la même manière. C'est un peu la monotonie qui s'est installée, il y a des stéréotypes. Alors, parfois, sortir de ce qu'ils ont toujours fait, ils trouvent ça un peu difficile.
Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que, d'une manière générale, à travers le monde, on peut dire qu'il existe trois, par rapport à notre sujet, on peut dire qu'il y a trois formes de culture. Vous avez la première forme, c'est la culture caractérisée par le besoin de réussite. C'est cette culture-là qui favorise notamment le développement de l'esprit d'innovation. Cette forme de culture existe essentiellement dans les pays aujourd'hui développés, dans les pays de l'Occident.
Oui.
Et la deuxième forme de culture, c'est la culture marquée essentiellement par les besoins de prestige, où l'homme se consacre essentiellement à des fonctions de prestige, à des fonctions de gloire, etc., à une politique totalitaire, etc. C'est cette culture qui a marqué essentiellement le grand ensemble du côté des pays, anciennement des pays communistes, etc.
Oui.
Et la troisième forme de culture, c'est celle qui est caractérisée par le désir de garder la tradition. C'est cette culture-là qui réside chez nous en Afrique, dans les pays développés en général. Et dans cette culture-là, on n'a pas cette attitude à innover. Au contraire, on cherche plutôt à garder, à se référer au passé, à garder ce qui a été fait anciennement. On ne cherche pas à faire différemment de ce que les parents ou les ancêtres ont fait. Et d'une manière quelconque, cette forme de culture influence aussi le prestataire dans son milieu de travail, en sorte qu'il ne cherche pas à avoir de nouvelles opportunités, surtout à agir sur ces nouvelles opportunités.
Oui, donc ce sont des conservateurs.
Ce sont des conservateurs, justement.
Oui. Et c'est là, est-ce qu'il y a du mal en ça à garder certaines traditions, certaines pratiques?
Oui, par rapport aux besoins pour le développement économique, par rapport aux performances entrepreneuriales dans le monde moderne, c'est vraiment important. Cela ne vous permet pas d'innover, ça dit, cela ne vous permet pas, par exemple, de détendre des affaires, cela ne vous permet pas de faire augmenter le volume du chiffre d'affaires, cela ne vous permet pas de faire augmenter, par exemple, de créer de nouveaux emplois, etc.
Oui. Alors, prenons le cas d'une entreprise, les agents sont là, et d'ailleurs, même lors du test d'embauche, on pose parfois la question de savoir, mais qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans notre entreprise, et parfois les gens sont butés à des sérieuses difficultés pour répondre à cette question. D'après vous, comment les gens devraient normalement s'y prendre?
Normalement, il existe des tests, qui permettent de déceler, d'évaluer le niveau de réussite d'entreprise ou de réussite d'innovation auprès de le sujet. Et ce sont ces tests-là. Au lieu de poser la question au sujet directement, on devrait plutôt soumettre le sujet à ces tests. Et à travers les résultats de ces tests, on peut déjà savoir qu'est-ce que le sujet sera, de quoi sera-t-il capable en termes d'innovation pour l'entreprise. Malheureusement, chez nous, souvent les tests qu'on donne pour sélectionner dans les entreprises, souvent ce sont des tests qui mettent peut-être les connaissances, acquises, etc. Mais surtout pour les dirigeants des entreprises, parce que c'est une des grandes lignes de compétences que les dirigeants doivent posséder.
Oui. Hein,
surtout pour les dirigeants, normalement, ce sont les tests de mesures de l'esprit d'entreprise auxquelles on devrait soumettre les dirigeants des entreprises. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas ici chez nous.
Ce n'est pas encore le cas ici chez nous. Donc, il y a même certains dirigeants qui n'ont pas cet esprit d'innovation.
C'est sûr, c'est pour cela que la plupart de nos entreprises ne sont pas du tout performantes.
Oui, voilà. Et certains disent qu'il revient plutôt aux agents de proposer à leur chef d'entreprise des nouvelles idées.
Oui, ça c'est vrai. Les agents, chacun à son poste, devraient voir de nouvelles opportunités et faire des propositions à ce sujet à l'entrepreneur, au chef d'entreprise. Mais le chef d'entreprise lui-même aussi, c'est d'abord lui-même aussi devait avoir cette compétence-là.
Oui. Alors, comment maintenant arriver à développer cet esprit d'entreprise au sein des agents dans une société? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les préalables?
Eh bien, il y a deux voies. La voie la plus naturelle, c'est la culture. C'est la culture. Certaines cultures permettent de faire le développement de cet esprit. Mais en dehors de cette voie naturelle, maintenant, les psychologues ont mis au point des programmes de formation à l'esprit d'entreprise, et à partir de ces programmes-là, on peut s'exercer à mener des sujets à déplacer ces différentes compétences via l'esprit d'entreprise.
Et ces programmes sont... les gens suivent ces enseignements où exactement?
Il faut recourir à des consultants. Moi-même, j'ai déjà délivré une formation à ce sujet il y a quelques années, à l'an 2000, la Fondation allemande Anschadel, qui a pris le centre d'appui au développement intégral de Ndakana, Kadi, m'a fait inviter parce que, à l'époque, la fondation voulait introduire une nouvelle activité, au sein de ce projet-là. Il s'agissait de l'utilisation de bêtes dans la culture, dans les techniques culturelles. Eh bien, c'est une nouvelle tâche qui exigeait quand même un changement de comportement au niveau des fermiers encadrés par ce projet. Et la Fondation m'avait invité, je suis allé donner cette formation en Bacana, dont le programme existe, c'est seulement question que les entreprises puissent chercher à contacter les experts et les consultants là-dessus. Moi-même, j'ai eu à apprendre ça auprès d'un psychologue américain à la Harvard University, professeur Matt Collins, qui organise notamment, qui a une maison qui organise ces formations. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, l'Inde a connu un développement extraordinaire. Nous avons des entrepreneurs très, très performants qui exportent même leurs produits jusqu'ici chez nous, alors que vous savez, il y a quelques années, il n'en était pas ainsi. Il y a un programme qui contribue effectivement à donner, à faire augmenter le niveau de l'esprit d'entreprise et de l'esprit d'innovation auprès des citoyens.
Alors, pouvez-vous nous parler de quelques points qui, des points importants qui se retrouvent dans ce programme pour développer cet esprit d'entreprise?
Oui, il y a des étapes. Au début, on amène les sujets à réfléchir, à voir un peu dans leur vie. Ils ont sûrement eu grand rêve, ils ont sûrement pensé à beaucoup de choses. Maintenant, il faut les mettre à l'aise, qu'ils fassent un peu une revue de tout ce qu'ils avaient comme idée, comme projet, eh bien, la deuxième étape consiste à les amener maintenant à choisir parmi ces différentes idées, parmi ces différents projets-là, lesquels de ces projets, par exemple, leur tient à cœur, ce qu'ils avaient considéré comme leur grand rêve. La troisième étape, maintenant, consiste à amener le sujet, à s'auto-évaluer par rapport à ça, hein, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans le passé, parce qu'on ne peut pas évoquer seulement dans l'air, il faut d'abord voir de quoi vous avez d'abord été capable dans le passé, et comment vous pouvez utiliser votre résultat du passé maintenant pour faire plus dans l'avenir, et puis entraîner le sujet maintenant à tenir ferme, donc à croire qu'il peut réellement arriver à travailler pour réaliser son projet, et l'amener exactement à évaluer si vraiment il va pu se réaliser ou non. Ce sont à peu près là les grandes étapes.
Voilà, ce sont là les grandes étapes. Vous avez des questions, des réactions, composez le 081-890-6394. Nous parlons aujourd'hui du développement de l'esprit et d'innovation sur le plan professionnel avec notre invité Joseph Mbenda, psychologue et expert en formation à l'esprit d'entreprise.
À l'occasion du cinquantenaire et de la Journée internationale de la paix, Okapi Service invite toutes les écoles agréées de la République démocratique du Congo, classes de 5e et 6e secondaire, à participer au concours Congo Jubilé 2010. À partir de mardi 21 septembre, répondez à des questions de culture générale et gagnez des cadeaux exceptionnels. Congo Jubilé 2010, un concours ouvert à toutes les classes de 5e et 6e secondaire le 21 septembre 2010 avec Okapi Service.
Voilà, comment développer l'esprit d'innovation sur le plan professionnel. Alors, Joseph Mbenda, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut d'abord réunir les idées des agents, voir ce qu'ils ont comme idée, leurs grands rêves, et puis voir ce qui a été fait dans le passé, comment ça marchait, et puis tenter d'explorer d'autres terrains jusque-là encore inconnus, c'est cela.
Oui.
Oui. Mais ça va demander aussi des moyens. Il faut que les moyens suivent pour la réalisation de ces projets.
Et ça, c'est sûr, hein, c'est ça aussi l'une des difficultés que nous avons ici dans les pays sous-développés. Par exemple, aux États-Unis, c'est des incubateurs. Ce qu'on appelle des incubateurs, c'est-à-dire des structures qui acceptent des gens de différentes formations. Eh bien, des banques, on les entraîne au développement de l'esprit d'entreprise. Et au sortir de ces structures-là, on leur donne un certificat. Et avec ce certificat, ils ont accès à des financements octroyés par de banques de financement. À l'époque, chez nous, la société, c'est la société qui devait, par exemple, appuyer dans ce sens-là, et se prenait même quelques amis de la société qui ont aussi accepté des voyages pour suivre cette formation à l'issue d'entreprise. Mais après cela, bon, on n'a pas vu de réalisation concrète, malheureusement. Mais c'est une des difficultés. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, c'est ça. Il faut aussi que, lorsque vous avez ces bonnes idées-là, que vous puissiez accéder à un financement qui vous permette de réaliser vos idées. Vous voyez, pour être philosophe, il ne suffit pas seulement d'avoir des idées. Un philosophe, c'est quelqu'un qui a des idées, mais qui, en même temps, a aussi des moyens pour répandre ses idées. Sinon, ses idées restent l'être morte.
Mais un agent, par exemple, qui a des bonnes idées, est-ce qu'il doit d'abord attendre de réunir les moyens avant de rédiger, par exemple, son projet?
Pas nécessairement, hein, pas nécessairement. Il peut rédiger ses projets et les présenter peut-être au chef d'entreprise. À ce moment-là, le chef dans le cas d'un agent, par exemple, qui est dans une structure, cela n'est pas très compliqué. Lorsqu'il a un projet, il le rédige et il présente le chef d'entreprise, évidemment, cela va dépendre maintenant de la façon de niveau avec le ciblé. Cela va dépendre de la manière dont le chef d'entreprise va recevoir le projet.
Oui.
Normalement, un chef d'entreprise qui cherche à étendre ses affaires, et c'est ça vraiment la vocation d'une entreprise, et bien il devrait réagir favorablement, c'est-à-dire trouver maintenant un financement pour faire ces idées-là, pour faire matérialiser ces idées. Ça, c'est pour quelqu'un qui est dans une structure. Pour un autre qui est déjà dans une affaire qui lui appartient,
oui. C'est
à lui-même, comme il est déjà dans les affaires, c'est déjà un entrepreneur effectif, il a peut-être des relations avec des banques, etc. Il peut introduire ce projet-là auprès d'une banque, auprès de sa banque, et sa banque peut apprécier à quel motif son projet peut être financé. La grande difficulté, c'est surtout pour quelqu'un qui n'est pas dans une entreprise et qui est un entrepreneur potentiel. Par exemple, quelqu'un qui vient de terminer ses études à l'ICTI, il a toujours rêvé de créer son propre journal.
Oui.
Il a eu la formation à l'ICTI, etc. Il est plein d'initiatives, il met son projet par écrit, etc. Mais ici, chez nous, il va s'éduquer à ce problème-là, qu'il a de bonnes idées, et malheureusement, l'accès au financement est excessivement difficile. Et c'est peut-être aussi ce point-là qu'on doit encore parler avec le pouvoir public. Il faut que le pouvoir public aussi appelle le ministère du Plan, les banques de développement. Malheureusement, chez nous, il n'y a plus de banque de développement. Eh bien, le ministère du Plan et le banque de développement devraient contribuer à cela, parce que le développement économique des pays, ça passe nécessairement par les initiatives ou les innovations des entrepreneurs. Ce n'est pas l'État qui va faire développer le pays. Les pays qui sont aujourd'hui développés sont développés parce que au sein de ces États-là, eh bien, il y a un grand nombre d'entrepreneurs performants.
Oui, mais le grand problème également, Joseph Mbenda, c'est que vous pouvez avoir des bonnes idées, mais ceux qui sont autour de vous, vous essayez de partager ces idées avec eux, ils vous découragent davantage.
Oui, justement, celui qui a l'esprit d'entreprise, eh bien, en dehors de la compétence de l'innovation, il a aussi une autre compétence qu'on appelle la compétence d'initiative. Cette compétence d'initiative peut être définie comme la capacité de quelqu'un qui agit sans avoir l'autorisation des autres, sans attendre l'approbation des autres, sans y être poussé par des circonstances. Vous voyez? L'initiative, c'est ça. Vous agissez sans tenir compte de...
Joseph Mbenda, notre ligne, on va peut-être les retrouver tout à l'heure. Il est psychologue et expert en formation à l'esprit d'entreprise. Avec lui, nous échangerons tout à l'heure sur comment développer l'esprit d'innovation sur le plan professionnel. Vous savez, dans la vie professionnelle, certains employés perdent parfois leur poste au motif qu'ils n'ont pas l'esprit de créativité. Cela s'observe surtout dans le secteur où l'émulation est de mise. Il faut plus d'innovation pour faire face à la concurrence. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour être créatif, productif au travail? C'est ça la question qui est débattue ce matin. Nous avons déjà un auditeur en ligne, Soupi Nyembo, depuis Kalima, au Manima. Bonjour.
Bonjour, je dis Kassam, et bonjour à l'invité, surtout aux auditeurs qui nous entendent en présent. Nous, on salue tous les auditeurs. Je dis ma préoccupation, si monsieur l'invité peut m'orienter, parce que moi, je suis un pharmacien, donc je perds mes temps aux pharmaciens. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour continuer, pour alléger notre commerce de pharmacie?
Ouais, et si vous pouvez répondre, Soupi?
Oui, je dis ceci, je suis pharmacien, j'ai commencé quand ici à Kalima, au province du Maniema, mais je dis, est-ce que monsieur l'invité, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour enlever ou pour continuer à notre commerce?
Voilà, donc pour innover dans ce que vous faites.
Oui.
Bien, merci Soupi Nyembo pour cette question. Nous allons poser la question tout à l'heure à notre invité Joseph Mbenda. Mais si vous avez aussi des réactions, n'hésitez pas, appelez-nous au 081-890-63-94. Vous pouvez aussi nous écrire à service@radiocapi.net pour poser vos questions. Voilà, Joseph Mbenda est de nouveau en ligne. Voilà, il y a un auditeur qui nous appelait de Kalima, au Manema, qui s'appelle Soupi. Il est pharmacien. Il dit comment, qu'est-ce qu'il peut faire pour innover dans ces secteurs?
Mais je crois que dans son cas là, comme il est déjà un entrepreneur effectif, il est déjà dans les affaires, il est déjà pharmacien, et bien il n'a qu'à se concentrer. Parce que le grand problème, c'est ça. Hein, on est dans les affaires, mais on est dispersé, on a des idées, on regarde ailleurs, on ne regarde pas dans le sens des affaires. Si on regarde très bien dans le sens des affaires, il concentre toute son énergie toute son intelligence, n'est-ce pas, toutes ses capacités pour le développement de ses affaires, il verra sûrement qu'autour de lui, il y a beaucoup d'opportunités qui peut servir et sur lesquelles il peut agir. C'est à ce moment-là qu'il va innover.
Oui, et c'est quel genre d'opportunités?
Mais je dis, les opportunités peuvent être, par exemple, de nouveaux marchés, de nouvelles relations commerciales, de nouvelles sources de financement, de nouveaux équipements, de nouveaux matériels, de nouvelles concessions, etc.
Donc, il doit voir tous ces paramètres-là qui peuvent l'aider à innover. Il reste aussi
qu'est-ce qui se passe ici chez nous, en Afrique, souvent, on est homme d'affaires, on est entrepreneur, mais peut-être que au lieu de concentrer toute son énergie, toute son attention sur le développement de ses affaires, eh bien, on disperse l'énergie, on est orienté, par exemple, vers des activités de prestige, hein, on est orienté vers des activités à caractère social, on cherche à être pater familias, chef coutumier, si vous êtes bien chercheur de ceci, pour appuyer le fait de baptême, etc. Alors, à ce moment-là, l'énergie qu'on devait consacrer, n'est-ce pas, au développement des affaires, cette énergie-là est dépensée dans des autres activités et les affaires en souffrent.
Oui, il reste à savoir aussi si Soufi est pharmacien de formation, parce que ça aussi c'est important.
Oui, bon, même s'il n'est pas pharmacien de formation, mais chez nous la loi prévoit ça, hein, quelqu'un qui n'est pas pharmacien de formation, il prend en association un pharmacien de formation et il peut bien monter les affaires et les suivre. Et justement, ben, la différence, c'est ça, entre les affaires et le professeur entrepreneurial. Mais ça, le professeur entrepreneurial, en psychologie, nous définissons le professeur entrepreneurial comme les professions que vous exercez en vous basant sur l'éducation que vous avez reçue, sur la formation scolaire ou académique que vous avez reçue. Mais c'est pas aux affaires, pour les affaires, il n'y a pas de formation antérieure. Hein? L'homme d'affaires, il est créé homme d'affaires, il a ses compétences-là, il n'est pas nécessaire pour lui des dispositions d'une formation orientée à la base, mais oui, il se jette dans les affaires et il progresse tout ce temps parce qu'il est capable de voir de nouveaux marchés, de découvrir de nouvelles sources de financement, de découvrir de nouvelles opportunités et d'avancer.
Voilà. Rock Tumba nous appelle depuis la ville province de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Oui, on vous écoute, Rock.
Oui. Ma préoccupation est celle-ci, je voulais juste demander un peu à l'expert.
Oui.
Comment est-ce que les employés qui travaillent dans une entreprise, ils peuvent créer même ce qu'on appelle les clubs des entrepreneurs, ceux qui peuvent peut-être les aider à créer les fonds de garantie et aussi avoir l'apport de leur entreprise comme des mentors qui peuvent leur donner des conseils au lieu d'aller faire recours à des gens qui sont informels. Donc, je pense que je ne sais pas quelle est l'idée qu'il peut nous donner
oui,
par rapport à ça, et qu'une entreprise peut avoir un club des entrepreneurs de personnel, et ils peuvent avoir peut-être le soutien dans le cadre des responsabilités sociales des entreprises. C'est ça ma préoccupation.
Merci, Roth. Joseph Mbenda.
Pardon?
Non, mais je pense l'auditeur, si vous voulez mettre entre les correspondants, veut dire que au club d'entreprise, il y a un groupe de gens qui se mettent ensemble pour innover, c'est ça?
Oui. Comment l'entreprise peut susciter un club des entrepreneurs? Voilà.
Oui, alors, dans ce cas-là, si c'est une entreprise organisée, je pense qu'au sein de cette entreprise, si l'entreprise a des contacts avec le psychologue, avec un psychologue, peut-être que le psychologue peut chercher à détecter parmi les employés lesquels ont ces compétences-là, ou éventuellement soumettre ces employés-là à un test qui permet d'évaluer le niveau de l'esprit d'entreprise chez eux. Et s'il y a 3 ou 4 dans l'entreprise qui ont ces compétences, bien, on peut travailler avec eux et leur demander, par exemple, de réfléchir et de chercher à y trouver.
Voilà. Mais il y a aussi, en fait, Joseph Mbenda, dans notre pays, lorsque il y a ce que les gens appellent, entre guillemets, le suivisme. Quand, par exemple, le voisin commence à vendre des beignets, voilà, c'est tous les autres suivent. Quand un décide d'aller faire du commerce à Nguanzu, et voilà, c'est tout le monde qui entre dans la danse. Est-ce que ça, c'est. Comment pouvez-vous qualifier cela?
Oui, bon, ça, c'est pas très, très étonnant, hein. Les économistes disent qu'on ne laisse jamais un faire profiter du bonheur pendant très longtemps. Si, par exemple, vous vendez du bonheur et que je vois que, après 3 ou 4 mois, votre situation a complètement changé, que vous réalisez vraiment que vous faites des bonnes finances avec ça, il est tout à fait normal que moi aussi, je cherche à partager ces marchés pour pouvoir m'enrichir. Ça, c'est fait. C'est qu'on peut être condamné, c'est qu'il y a des gens qui entreprennent, c'est-à-dire qui commencent les affaires tout simplement parce qu'ils ont été poussés par le chômage, ils ont été poussés par le manque d'argent. Donc, ils ne sont pas des entrepreneurs, mais ils n'ont pas vraiment cette vocation-là. Eh bien, ils se jettent dans les affaires et dès qu'ils ont de quoi satisfaire leurs besoins, qui les préoccupent, eh bien, ils abandonnent ces affaires. Par exemple, quelqu'un qui commence les affaires aujourd'hui, tout simplement parce qu'il lui manquait du travail, il a été révoqué dans une autre entreprise, et bien, il peut aussi faire du progrès, mais dès qu'il trouve de quoi vivre, il ne fait plus un effort pour avancer, au contraire, il change, il se jette par exemple dans la politique, ou bien il se jette dans des mariages multiples, etc. C'est ça qu'on peut répéter. Mais que je puisse faire la même chose qu'un voisin, puisque je vois le voisin prospérer par cette activité, je pense qu'on ne peut pas vraiment stigmatiser ça.
Oui. Alors, on va terminer avec la question de Kiyombo Mba, depuis le Kassi, bonjour. Oui, on vous écoute. Kiyombo Mba, depuis le Kassi, bonjour. Voilà.
Tout à l'heure, je parlais du fait que un entrepreneur n'a pas à s'occuper des opinions des autres avant d'agir. Je ne sais pas s'il y a eu coupure, je ne sais pas si ces idées sont passées.
Non, non, oui, vous étiez en train de parler de cela. Il n'a pas à se préoccuper de ce que les gens peuvent dire ou de ce qu'ils peuvent tenter, essayer de le décourager. Il doit foncer avec ses idées.
Oui.
Voilà, merci beaucoup Joseph Ngenza, psychologue et expert en formation à l'esprit d'entreprise. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et à la prochaine.
À la prochaine.